Chapitre 3. Tu vas broyer du noir encore longtemps ? Demanda Nicole à son mari alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Il ne s'est rien passé de catastrophique, que je sache. Le temps est parfait. Il s'est amélioré, oncle Richard.
Intervint Patrick.
À l'université, tous disent que tu es un héros, même s'il y en a qui t'assimilent à un extraterrestre.
Richard réussit à sourire. Le gouvernement ne suit pas mes recommandations et ne tient pas compte des avertissements de l'aigle. Des ingénieurs ont même déclaré que j'avais pu créer cet hologramme.
Kenji te croit, mon chéri,
lui rappela Nicole. Alors pourquoi a-t-il permis aux météorologues d'accentuer encore les corrections? Nul ne peut prévoir leur effet à long terme.
Qu'est-ce que tu redoutes, papa?
Demanda Ali. Altérer un tel volume gazeux est risqué. Et je tiens en haute estime les capacités des Hiti qui ont conçu le nouvel Éden. S'ils ont insisté pour que le taux de gaz carbonique et de suie n'excède pas un pourcentage donné, c'est parce qu'ils savaient des choses que nous ignorons. Patrick et Ali les laissèrent, et Nicole prit son compagnon par les épaules.
Te souviens-tu du soir où nous leur avons parlé d'Albert Einstein ?
Il la dévisagea en fronçant les sourcils.
Quand nous nous sommes couchés, j'ai déclaré que la découverte des rapports existants entre la matière et l'énergie était horrible, car elle était à l'origine des armes nucléaires. Te souviens-tu de ta réponse ?
Il secoua la tête.
Tu m'as rétorqué que le savoir n'est jamais horrible. C'est seulement ce qu'en font les hommes qui peut l'être.
Cherches-tu à m'absoudre de toute responsabilité ?
C'est possible,
fit-elle en se penchant pour l'embrasser.
Tu es un des hommes les plus intelligents et créatifs qui ont jamais vu le jour, et tu n'as pas apporté tous les fardeaux de cette colonie.
Il répondit à son baiser avec passion.
Tu crois qu'on a un peu de temps devant nous avant que Benji ne s'éveille ? Il n'a pas école aujourd'hui et il s'est couché très tard.
On peut toujours essayer,
déclara-t-elle avec un sourire mutin.
Je ne dois être au tribunal qu'à 10 heures.
Dans les cours d'art et littérature qu'elle donnait au lycée central, Éponine abordait la plupart des aspects des cultures de la Terre. Elle faisait en sorte que tous les courants soient représentés et encourageait ses élèves à effectuer des recherches personnelles dans les domaines qui les intéressaient le plus. Pour elle, Les Misérables de Victor Hugo étaient le plus admirable de tous les romans, et Pierre-Auguste Renoir, le plus grand peintre ayant jamais vécu. Ses deux compatriotes tenaient une place importante dans son enseignement, mais elle veillait à ce que toutes les nations soient équitablement représentées. Au cours des 3 semaines consacrées à la poésie, elle présentait une palette de poèmes qui allait de Frost à Rilke, en passant par Omar Khayyam. Elle avait toutefois réservé plusieurs jours à Benita Garcia, non seulement parce que les biotes à son image étaient omniprésents dans le Nouvel Éden, mais surtout parce que l'œuvre et la vie de cette femme fascinaient la jeunesse. Éponine n'avait plus que 11 élèves depuis que le port du brassard rouge lui avait été imposé. Les résultats de son test de dépistage du RV41 avaient placé le proviseur dans l'embarras. Bien qu'il eût courageusement résisté aux pressions des parents, qui exigeait son renvoi, il s'était vu contraint de donner à ses cours un statut d'option pour apaiser les esprits. Ali Wakefield était son élève préféré. Bien que retardé dans ses études par plus de 10 années de sommeil profond, son intelligence et sa soif d'apprendre compensaient amplement ce handicap. Éponine lui demanda de réciter un des poèmes du recueil « Rêve d'une jeune Mexicaine » écrit par Benita Garcia pendant son adolescence et fit précéder la récitation d'un bref exposé sur l'existence de la poétesse.
Benita Garcia fut une femme vraiment exceptionnelle. Poétesse, cosmonaute, leader politique, mystique. Sa vie est un reflet de son époque et un exemple pour tous. Fille unique d'un riche propriétaire terrien de l'état du Yucatan et d'une mère maya, Benita passa la majeure partie de son enfance seule dans la plantation familiale, proche des merveilleuses ruines d'Uxmal. Elle allait souvent jouer entre les pyramides de ce centre de cérémonie vieux de 10 siècles. Elle était douée pour apprendre, mais ce furent son imagination et son enthousiasme qui la différencièrent des autres enfants de son âge. Elle écrivit son premier poème à 9 ans, et elle fut publiée pour la première fois 6 ans plus tard dans le célèbre Diario de Mexico. À la fin de ses études secondaires, elle surprit tant ses professeurs que sa famille en annonçant qu'elle voulait devenir cosmonaute. En 2129, elle fut la première Mexicaine admise à l'Académie spatiale du Colorado. Mais lorsqu'elle termina sa formation 4 ans plus tard, l'humanité avait déjà entamé son retrait du système solaire. L'année suivante, le monde connut la récession appelée le Grand Chaos et le programme spatial fut interrompu. Quand elle dut quitter la SI en 2137, tout laissait à supposer qu'elle ne retournerait jamais dans l'espace. Mais en 2144, un des derniers grands transporteurs interplanétaires, le James Martin, fut chargé de ramener de Mars un groupe de colons, principalement des femmes et des enfants. Victime d'une avarie, ce vaisseau ne put que de justesse regagner l'orbite terrestre. Ses passagers semblaient perdus lorsque Benita Garcia et 3 amis remirent une navette en état avec des moyens de fortune et réussirent à ramener 24 voyageurs dans le cadre de ce qui fut la plus spectaculaire de toutes les missions spatiales.
Alice représenta Benita aux commandes du petit appareil en piteux état, privé d'aide à la navigation et risquant sa vie pour sauver ses semblables. Pouvait-on faire preuve de plus d'abnégation? Comme pour lui répondre, une image de sa mère se superposa à celle de la cosmonaute mexicaine. Nicole est mon héroïne, comprit soudain Ali. Elle est aussi altruiste que l'était Benita Garcia.
Imaginez à présent cette adolescente qui gravit lentement les marches de la pyramide du magicien à Uxmal. En contrebas, des iguanes jouent entre les rochers et les ruines.
Elle fit un signe de tête à Ali, qui se leva et récita le poème qui commençait par
« Tu connais tout cela, vieux reptile, tant nos rires joyeux que nos larmes, nos aspirations si subtiles et nos désirs inavouables. »
Elle pleurait à la fin de ce texte. Éponine et les autres élèves durent la croire émue par ces strophes et la vie de leur auteur. Ils ne pouvaient savoir qu'elle venait de prendre conscience de l'intensité de l'amour et du respect que lui inspirait sa mère. C'était la dernière semaine de répétition. Éponine avait choisi une œuvre très ancienne, En attendant Godot, de Samuel Beckett, une pièce de théâtre dont le thème était toujours d'actualité. Les deux principaux personnages étaient interprétés par Ali Wakefield et Pedro Martinez, un jeune homme de 19 ans qui faisait partie des adolescents à problème, venus grossir les rangs des colons quelques mois avant leur départ. Éponine n'aurait pu mener ce projet à bon terme sans les Kawabata, qui avaient dessiné et réalisé les décors et les costumes, étudié et réglé les jeux de lumière, et même dirigé les acteurs en son absence.
« Du bon travail !» cria-t-elle. « Ça suffira pour aujourd'hui. »«
Mademoiselle Wakefield, » fit Kawabata 052, « vous vous êtes écartée du texte à 3 reprises, au début de... »«
Demain !»
l'interrompit Éponine, en faisant signe aux biotes de les laisser. Elle se tourna vers sa troupe.
« Des questions ? Je sais que nous en avons déjà discuté, » dit Pedro Martinez. « Cependant, j'aimerais revenir sur ce sujet. Vous nous avez dit que Godot n'était pas un homme mais un concept ou un fruit de l'imagination, que nous attendions tous quelque chose. J'arrive pas à saisir le fond de votre pensée. »
« En attendant Godot, traite de l'absurdité de l'existence, » répondit Éponine.
L'effet comique est dû au fait que les spectateurs se reconnaissent dans les 2 clochards qu'ils voient sur scène, qu'ils s'entendent parler par leur bouche. Ce que Beckett a su traduire, c'est un désir fondamental des hommes. Qui que soit ce Godot, il a le pouvoir de tout arranger, de transformer nos vies et de nous apporter le bonheur. Ne peut-on pas supposer que c'est Dieu ?
Demanda Pedro.
Absolument. Dieu ou les extraterrestres, qui ont construit Rama et le point nodal. Godot est la panacée de tous les maux qui affligent l'humanité. C'est pour ça que cette pièce est universelle.
Pedro !
Cria une voix au fond du petit auditorium.
Tu en as encore pour longtemps ?
Une minute, Mariko, répondit le jeune homme. Notre discussion est passionnante. Tu devrais venir te joindre à nous.
Non,
lança la japonaise.
Très peu pour moi. Viens.
Et Ponine déclara la répétition terminée, et Pedro sauta dans la salle.
Pourquoi se laisse-t-il mener par le bout du nez ?
Se demanda Ali à voix haute.
C'est pas à moi qu'il faut poser cette question,
fit Éponine en haussant les épaules.
Je ne suis pas une experte des rapports entre les êtres.
Cette Kobayashi ne me dit rien qui vaille,
pensa-t-elle.
Les garçons sont parfois d'une stupidité sans bornes.
Éponine, est-ce que ça vous embêterait si mes parents assistaient à la générale ?
Lui demanda Ali.
Beckett est un des dramaturges préférés de mon père et
j'en serais ravi. Tu sais qu'ils seront toujours les bienvenus. De plus, je voudrais les remercier.
Mademoiselle Éponine !
Cria Derek Brevert, qui approchait en courant.
Avez-vous écouté les informations ?
Elle secoua la tête, surprise de le voir à ce point surexcité.
Le juge Mishkin vient de décréter que l'obligation de porter un brassard était anticonstitutionnelle.
Il fallut à Éponine quelques secondes pour assimiler le sens de ses propos. Derek était arrivé près d'elle, visiblement ravi d'être le porteur de la bonne nouvelle.
« Tu t'en es certain ?
Nous venons de l'entendre à la radio. »
Elle tendit la main vers la bande rouge, qu'elle arracha d'un geste brusque et lança en l'air. Elle pleurait de joie quand le bout de tissu retomba lentement.
« Merci, Derek. »
Les deux jeunes gens l'étreignirent avec force.
« Je suis si heureuse pour vous, »
lui murmura Ali.